Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Eh bien, le samedi 7 novembre prochain aura lieu le troisième colloque pour parents, le grand défi de l'apprentissage. C'est organisé par l'Institut des troubles d'apprentissage. Et ce colloque vise à atteindre trois objectifs bien précis. Comprendre, démystifier le trouble d'apprentissage de votre enfant, lui donner aussi des outils qui sont adaptés pour sa réussite scolaire et le guider à travers ses choix et ses études professionnelle. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Annie Parenteau, elle qui est orthopédagogue, parent et personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage, sera là pour nous en parler davantage. Et puis, on parle également de bien-être professionnel aujourd'hui ou peut-être de santé au travail. Et tout ça, ça passe souvent par une saine gestion du stress. Et ça peut paraître un peu banal ou simpliste, mais pourtant, nos milieux de travail, je pense que vous pouvez vous en rendre compte autour de vous, se complexifie. On est sans cesse sous pression, les objectifs sont très élevés, la productivité doit être au rendez-vous. Des chiffres qui sont très révélateurs. Au Québec, les troubles de santé mentale arrivent en premier rang des causes d'incapacité au travail, représentant pratiquement 50 % de l'absentéisme. Et au Québec, les indemnisations versées par la CSST et liées à des facteurs psychologiques ont plus que doublé entre 1990 c'est 2001. Et en 2004, selon Statistique Canada, j'ai pas réussi à obtenir des chiffres plus récents, mais en 2004, donc plus de 10 ans, il y avait déjà 800 000 personnes qui étaient passées, qui vivaient un épisode de burn-out. J'imagine que les chiffres ont gonflé depuis ce temps-là. Comment comprendre le stress pour être plus heureux au travail? J'en parle avec Brigitte Durruty, formatrice et coach spécialisée. Bonjour Brigitte Durruty.
Bonjour Marianne.
Vous êtes en France, hein, on doit le dire aux gens qui nous écoutent, dans le sud-ouest de la France. Est-ce qu'il fait beau là-bas?
Ah, il faisait très bon jusqu'à présent, c'est plutôt une vingtaine de degrés, donc j'ai quand même le feu dans la cheminée là ce soir.
On ne vous envie pas trop Brigitte, parce qu'ici à Montréal, il fait très beau aussi pour un 3 novembre. On se considère très, très chanceux. Brigitte, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous venez, on vous parle en fait, parce que vous venez tout juste de sortir un livre aux Éditions de l'Homme, Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail. Et vous en parlez justement de l'épuisement professionnel dans ce livre-là. Vous dites, le syndrome d'épuisement professionnel pourrait être expliqué comme la maladie de l'engagement, la maladie des gens passionnés qui visent la perfection et poussent la performance ou le souci des autres au-delà des limites. Le diagnostic est assez simple. J'ai donné trop et trop longtemps. C'est, selon vous, ce qui explique en partie l'épuisement professionnel, Brigitte Durruty?
Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, hein, contrairement à la dépression, c'est que le burn-out, c'est vraiment la maladie des gens qui surperforment, donc qui n'arrêtent pas. Qui ne peuvent pas renoncer à quelque chose. Donc, ce que j'entends très souvent de mes clients, c'est « je ne peux pas faire ça à mes équipes » ou « je ne peux pas faire ça à mes collaborateurs ». Donc, on ne peut rien laisser tomber. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a beau avoir énormément de charges sur les épaules, on continue à prendre plus et encore plus et encore plus jusqu'au jour où on explose en plein vol.
Oui. Le stress, il est dans plusieurs facettes de nos vies, notamment au travail, mais ça peut prendre plusieurs formes et c'est peut-être pour ça que parfois on a de la difficulté à le reconnaître dans notre quotidien.
Oui, parce que, alors d'abord, ce mot de stress, c'est un mot qui est très, très usité et on ne sait pas toujours très bien quoi y mettre derrière. Donc c'est important, moi je prends pas mal de temps dans le livre à expliquer ce que c'est le stress pour qu'on puisse le reconnaître, parce que c'est la toute première chose qui va nous permettre de mieux fonctionner, c'est vraiment pouvoir reconnaître, et il prend trois caractéristiques. La première, ce sont tous les états d'inquiétude, d'angoisse, de peur, donc c'est tout ce qui est lié à la peur. Donc un tout petit peu, ça donnera de la crainte ou une petite inquiétude, et beaucoup, ça donnera des états de panique.
Ouais.
La deuxième forme que peut prendre ce stress, c'est complètement différent, c'est tous les états de tension, les états de nervosité, d'irritation, d'agacement, qui peuvent aller, quand le curseur est très fort, c'est jusqu'à des crosses colères, vous voyez, des moments où on est vraiment on est hors de soi. Ça, c'est une deuxième caractéristique du stress. Mais la troisième façon dont s'exprime le stress, et ça on le néglige souvent, ce sont tous les états de tristesse, donc un état où on se sent pas bien, démoralisé, on est démotivé, on voit pas comment s'en sortir, on voit pas comment ça va aller. Et ce type de stress-là, qu'on appelle un stress d'inhibition, nous mine tout autant que les états de tension ou les états d'angoisse.
Oui. Je pense que, et vous me corrigez si je me trompe, Brigitte, le principal problème, c'est le stress chronique. C'est ce qui peut devenir assez dangereux et nous rendre malades.
Oui, oui, tout à fait, parce que être stressé, c'est pas gênant en soi. Ça, ouais. C'est un phénomène naturel. Un petit coup de stress, ça va nous faire avancer, ça va nous faire monter plus haut en haut d'un arbre ou fonctionner plus vite au travail. Ce qui est vraiment problématique, c'est quand nous vivons sous stress. C'est que ça devient un mode opératoire, ce qu'on appelle le stress chronique. Donc si toute votre vie est faite dans ces états de tension ou dans ces états de démotivation ou ces états de peur, ça devient vraiment problématique et on peut développer un tas de maladies derrière. Et ça nous empêche surtout de penser de façon saine, puisqu'on est tout le temps le nez dans le guidon, on est tout le temps dans un état d'urgence. Donc du coup, on consomme sa vie sans pouvoir prendre de recul ou sans pouvoir profiter pleinement de ce qu'on est en train de faire. Et c'est là qu'on perd sa joie, c'est là qu'on perd vraiment son engagement et la possibilité de pouvoir jouir et de pouvoir vraiment profiter de la vie.
Mais parmi les symptômes à ne pas ignorer, est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que, bon, aujourd'hui, on parle du milieu professionnel, est-ce que je suis heureuse au travail? Et si la réponse est non, aller interroger notre degré de stress?
Oui, parce que une personne qui n'est pas heureuse au travail, mais qui n'est pas stressée, vous dira, elle vous fera un constat en vous disant, voilà, je constate, je vois que mon métier ne me plaît pas, ou qu'il y a trop de pression, ou j'ai pas les responsabilités que je veux, ou je m'épanouis pas. Donc elle va d'abord commencer par faire un constat qui est assez neutre, qui est non émotionnel. Et puis la personne vous dira, mais voilà, pour l'instant, je peux pas changer parce que j'ai d'autres urgences à côté, mais dès que je peux, j'irai chercher autre chose, ou je vais parler avec mon associé, mon patron, mon chef. Et la personne, donc, va voir qu'est-ce qu'elle peut faire compte tenu de la situation dans laquelle elle est. Et elle va se mettre en chemin pour changer soit quelque chose dans son travail, soit pour en trouver un autre. Mais quand on est stressé, on n'arrive pas à faire ce constat. On va se dire qu'on n'a pas le choix. D'abord, c'est vraiment la première caractéristique. Sous stress, on se dira, oui, mais moi, j'ai pas le choix, je peux rien faire, de toute façon, ça dépend pas de moi. Et on a l'impression qu'on est enfermé dans une situation sur laquelle on n'a absolument pas de maîtrise. Donc, c'est intéressant de se dire que quand on est convaincu qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas de maîtrise et qu'on peut rien faire, c'est pas qu'on peut rien faire. C'est qu'on est stressé.
Ouais, et qu'on ne voit plus ce que l'on peut faire. Et il y a un passage très intéressant parce que vous vous intéressez à tout ce qui est l'approche neurocognitive, Brigitte Durruty, donc l'impact du stress sur le cerveau. Et vous dites, lorsqu'on est stressé, on n'a plus accès à la partie intelligente de notre cerveau, donc on n'arrive plus à réfléchir et à prendre du recul. Bon, vous dites aussi, c'est pas si mal. En fait, vous ne jugez pas, c'est pas bien, c'est pas mal. Mais moi, en lisant ce passage, je me disais, oh, mais à quel point le stress peut m'empêcher de prendre de bonnes décisions?
Oui, et je pense que, c'est vraiment l'élément central que j'ai voulu transmettre au travers de ce livre, parce que moi, je suis un humain comme tout le monde, donc je stresse aussi comme tout le monde. C'est pas parce qu'on écrit un livre sur le stress qu'on stresse moins que les autres. Mais j'ai compris que chaque fois que j'étais dans ces états-là, enfin, quand c'était un petit indicateur qui venait de m'indiquer que, oh là, Brigitte, t'es pas en train de réagir de façon fluide. Donc, quand j'arrive à prendre conscience que je suis sous stress, la toute première chose que je fais, c'est que je m'arrête, je commence par respirer, et déjà là, il y a une espèce de recul qui se fait. J'arrive à relativiser, j'arrive vraiment à prendre un peu de recul sur la situation que je suis en train de vivre. Et je peux me dire, OK, voyons ce qui se passe, voyons qu'est-ce que tu peux prendre comme décision, voyons les marges de manœuvre que tu as, à qui tu peux t'adresser. Et je commence déjà à trouver des solutions. Donc, c'est incroyable à quel point, dès qu'on prend conscience de son stress, on arrive à redevenir un humain intelligent. Et à quel point, quand on est sous stress, on est juste un humain qui réagissant de façon, comme si on était, on est dans un état d'urgence, mais on réagit sans faire appel à des parties fluides, à des parties fines de notre cerveau.
Oui. Ça me fait penser tout ça, Brigitte, au mode adaptatif. Vous en parlez beaucoup dans le livre Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail. C'est un mode que l'on devrait mettre de l'avant, qui fait appel à notre sang-froid, à la réflexion, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus précisément de ce mode adaptatif-là?
Oui, alors pour l'expliquer très rapidement, je pourrais dire que toutes les situations qu'on vit dans la vie de tous les jours, on va les vivre de deux façons différentes. Ben, la première, on va les vivre en mode automatique, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, je réfléchis pas, je prends pas de recul, je suis très automatique. Et ce mode, il est très bien quand on a gérer des situations simples. Donc imaginons, là vous êtes en train de faire un interview, si tout se passe comme vous l'avez prévu et que vous maîtrisez, merci votre mode automatique. Il va vous faire agir rapidement, mais sans devoir réinventer la roue, et c'est très bien. Et si maintenant, imaginons qu'il se passe quelque chose, il y a la fumée dans le studio, ou une coupure de téléphone, vous m'avez plus au téléphone, bah, si vous restez en mode automatique, vous allez stresser. Parce que ce mode automatique, il n'est pas fait pour gérer la complexité. Si par contre vous basculez en mode adaptatif, d'abord vous allez commencer par vous dire, tiens, il y a un problème, les choses ne se passent pas comme j'ai prévu. Puis vous allez vous tourner vers les gens autour de vous, vous allez être curieuse, vous allez demander, tiens, qu'est-ce qui se passe, vous allez peut-être faire un signe à un technicien, et puis en tout cas vous allez vous mettre en mode recherche de solutions. Et en fonction des moyens que vous avez, en fonction des gens qui sont autour de vous, vous prendrez des décisions diverses pour rétablir la communication ou voir ce qui se passe s'il y a de la fumée dans le studio. En tout cas, ce mode adaptatif, il va vous permettre de trouver des solutions en fonction d'abord de l'objectif que vous avez, qui pourrait être de continuer l'interview, et en fonction des moyens que vous avez. Alors que le mode automatique, il va nous faire rester dans un mode où vous allez vous dire « mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver maintenant, pas en plein direct, et non, c'est pas possible, il faut absolument que ce problème s'arrête.
Ouais. »
Or, c'est pas en pensant comme ça qu'on va résoudre notre problème.
Brigitte, vous dites dans le livre que nous sommes un paquet d'habitudes, que l'on est sans cesse en train de changer. Donc, comment on peut basculer et peut-être peaufiner notre mode adaptatif?
Alors, basculer en mode adaptatif, c'est prendre l'habitude régulièrement de s'ouvrir d'abord, d'être curieux et d'être tourné vers l'extérieur. C'est prendre l'habitude aussi d'accepter de voir ce qui se passe, même si ce qui se passe n'est pas ce que nous avions
voulu
anticiper. C'est aussi nuancer, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, ne pas être caricatural en disant c'est tout ou c'est rien, c'est blanc ou c'est noir, c'est vrai ou c'est faux. Parfois, il faut aller voir dans le détail. Vous voyez, s'il y a une panne, il peut y avoir une panne sur un problème, mais c'est pas tout qui est tombé en panne. Donc prendre l'habitude d'être nuancé. C'est relativiser aussi. Souvent, on a tendance à dire dans le travail, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui va, c'est dramatique. Et puis quand on prend un peu de recul, on se dit, bon, c'était pas si grave que ça, qu'il y ait cette panne ou que cette réunion soit annulée. Donc, vraiment pouvoir remettre les choses en perspective. Et puis, prendre l'habitude de réfléchir aussi et de pouvoir avoir une opinion personnelle. Une opinion personnelle, c'est cette capacité que l'on a, chacun de nous, de pouvoir s'extraire d'un groupe en disant, voilà ce que moi je pense de cette situation-là. Et plus vous allez prendre l'habitude donc d'agir en étant curieux, en prenant du recul, en nuançant, en étant dans l'opinion personnelle, plus vous irez utiliser cette partie adaptative de votre cerveau. Et donc, plus vous pourrez faire autre chose qu'être juste quelqu'un qui est dans l'automatique.
Oui. Bien sûr, au travail, Brigitte, on travaille, certaines personnes travaillent seules, mais pour la plupart d'entre nous, nous avons des collègues. Et parfois, notre stress a des impacts sur la relation que l'on entretient avec ces gens-là. Comment on peut développer des solutions plus créatives pour ne pas se laisser prendre par le stress et que ça envenime nos relations?
À nouveau, j'ai envie de dire, c'est quand il se passe quelque chose de déplaisant, quand on sent le stress qui monte, la toute première chose, c'est prendre l'habitude de respirer. Mm-hmm. Et prendre une ou deux petites secondes en disant, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Mais je fais une analogie. Si vous êtes dans votre voiture et que tout d'un coup, il se passe quelque chose de pas normal, mais je vais vous conseiller de reprendre votre sang-froid. Et on reprend son sang-froid en s'asseyant, vous voyez, au milieu de son fauteuil, en respirant, en disant, OK, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que ma voiture est vraiment en train de déraper? Vous voyez, prendre une décision en se recalant et en se recentrant sur soi. Mais au travail, c'est pareil. Si on prend l'habitude de se recentrer et de prendre cette petite seconde ou ces petites secondes de respiration, déjà, on va basculer en mode adaptatif. C'est-à-dire mmh. qu'on va prendre les choses pas de façon émotionnelle et à bras-le-corps, on va les prendre avec beaucoup plus de sang-froid. Mmh. Et on le sait dans la vie. Dès qu'on arrive à relativiser, prendre un petit peu de recul, on redevient maître de nos décisions. Et donc, on augmente notre capacité à pouvoir trouver des solutions.
Oui. Vous parlez d'affronter à bras le corps et ça me fait penser au stress qui peut influencer parfois notre comportement. Vous en parlez dans le livre « Stress de lutte, de fuite, d'inhibition ». Fuir devant le stress, c'est peut-être pas toujours la meilleure idée. Il faudrait pouvoir le vivre ou l'affronter, Brigitte?
Ben, réagir par le stress, c'est quelque chose de très bien. Si vous avez un ours qui est en train de vous courir derrière, là, franchement, un stress de fuite qui fait que vous allez prendre votre jambe à votre cou,
c'est un bon réflexe. Oui, oui, oui.
C'est très, très utile. Par contre, au travail, réagir avec un stress de fuite, c'est-à-dire que vous prendre ses jambes à son cou parce qu'on vous demande de faire quelque chose qui vous fait peur, ben, c'est pas adapté. Mmh. Donc un stress de fuite, c'est quelque chose qui est adapté quand il y a un danger réel pour notre survie. Mais c'est pas adapté si le danger n'est pas réel. C'est-à-dire que si dans l'immédiat, il vaut mieux réfléchir et prendre du recul. Donc dans les situations de travail aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit en Occident, en tout cas, on est très, très, très rarement dans des situations de risque, de danger, de mort immédiate. Mm-hmm. Donc le stress n'est pas tellement utile comme mode de gouvernance de nos décisions dans le travail. Il est beaucoup plus intéressant de réagir avec, sous la gouvernance, cette intelligence adaptative, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir embrasser un problème dans sa totalité, plutôt que de se laisser impacter par un petit morceau du problème.
Oui. Ce que je retiens de la lecture Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail, c'est que l'humour et la créativité, ça peut vraiment nous aider à sortir de périodes de stress. Vous donnez comme exemple votre père qui était concessionnaire automobile et qui a vu toutes ses voitures ravagées par une tempête de grêle et qui finalement s'en est très bien sorti en faisant une publicité plutôt rigolote et les gens finalement se sont arrachés les voitures. C'est une façon, j'imagine, de s'en sortir, d'arriver à penser à des pistes un petit peu hors d'onde, hors piste, là, finalement.
Oui, parce que quand on est sous stress, moi j'ai raconté cette histoire parce qu'elle m'a permis de me rappeler à quel point, quand on est sous stress, on dramatise. Ouais. Et on va dire que la phrase classique, sous stress, on dit « Oui, mais tu ne te rends pas compte, c'est grave, je ne sais pas comment je vais m'en sortir et je ne vais plus pouvoir payer, je vais peut-être faire faillite. » Alors que dès qu'on reprend la maîtrise de soi, on va dire « Ok, c'est parce que c'est grave que j'ai intérêt à pas stresser. » Et l'humour nous donne souvent... Alors, l'humour sur soi, hein, c'est pas l'humour sur les autres. Parce que l'humour oui. sur les autres, c'est on peut se moquer des autres. Mais c'est l'humour sur soi peut nous permettre de prendre ce recul, justement, en disant « Ok, c'est peut-être grave, mais on va essayer de pas dramatiser la situation. On va essayer de rester léger. » Et souvent, en restant léger, et bon, on trouve d'autres solutions.
Oui.
Et on arrive à s'en sortir différemment.
Et on peut lire également votre livre, Brigitte Durruty.
oui, pardon, j'ai pas compris.
On peut lire également votre livre pour trouver quelques pistes de solutions. Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail. Vous savez, Brigitte, on n'a pas eu de problème, là. La ligne n'a pas coupé aujourd'hui. Mais si ça avait été le cas, mon mode adaptatif aurait décidé d'aller vous rejoindre dans le sud-ouest de la France.
C'est bienvenue.
Brigitte Durruty, je le rappelle, vous êtes formatrice et coach spécialisée. Et chez les éditions de l'Homme, on peut se procurer. Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail. Merci beaucoup.
Merci, Marianne. Et bonjour à tout le Québec.
Merci, au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Annie Parenteau.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes orthopédagogue. Vous êtes également maman et personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage, anciennement l'AQUETA, donc anciennement l'Association québécoise des troubles d'apprentissage. Vous vous êtes dotée d'un nouveau nom. Pourquoi, donc, Annie?
C'était pour démontrer notre caractère qui fait référence, je vous dirais, davantage aux recherches. Alors, on s'appuie toujours sur les recherches probantes dans le domaine des troubles d'apprentissage. Alors, c'était pour montrer notre caractère qui était sérieux, théorique et rigoureux.
Vous êtes ici pour nous parler du troisième colloque pour parents, le grand défi de l'apprentissage.
Oui.
Et on peut deviner que c'est un besoin assez important lorsque l'on sait que 800 000 personnes au Québec, soit 10 % de la population, vit avec un trouble d'apprentissage. On parle de quoi là, lorsqu'on mentionne trouble d'apprentissage?
Mais il faut par ailleurs comprendre la distinction entre difficulté d'apprentissage et trouble d'apprentissage. Alors, une difficulté, c'est passager. Alors, l'enfant peut éprouver pour X raisons des difficultés avec une notion en lecture, que ce soit parce qu'il est moins disposé à une problématique familiale ou autre. Et après quelques interventions, la difficulté va s'estomper dans le temps. Par contre, le trouble d'apprentissage, lui, malgré les interventions, il va résister. Alors, il y a un caractère résistant et persistant dans le temps. Alors, c'est la différence entre les deux.
Et à ce moment-là, on a besoin de plus d'encadrement, d'un suivi un petit peu plus étroit par des professionnels.
Oui, tout à fait.
Oui. Maintenant, ce colloque-là s'adresse à qui? Bon, bien sûr, aux parents. On peut le deviner, c'est dans le titre du colloque, mais à des parents qui, parfois, n'auraient pas reçu de diagnostic, si je ne me trompe pas, mais pourraient avoir un doute.
Oui. Alors, tous les parents qui sont inquiets de la situation qu'ils vivent avec leur enfant, par exemple, lorsque l'enfant revient de la maison, un peu ce qui expose aux parents, la période des devoirs qui est tumultueuse. Alors, soit le parent a des doutes, soit qu'il vient de recevoir un diagnostic, puis il y a multiples questions qui lui viennent en tête.
Mm-hmm. Il se sent un peu démuni.
Il se sent démuni, puis c'est vraiment une occasion de pouvoir venir partager avec d'autres parents ce qu'eux vivent, parce que souvent, le parent va se sentir seul à vivre cette situation-là.
Et pourtant, il y en a 800 000 autres.
Oui, tout à fait. Et lorsqu'ils viennent lors du dîner, on a une conférence. Et là, ils se rendent compte que finalement, ils sont plusieurs dizaines et centaines de parents à vivre la même réalité.
Est-ce que, à quoi on peut s'attendre? Il y aura des conférences, des exposants également sur place?
Oui, alors on va avoir notre conférence, je vous dirais, conférence attendue de Dr Laberge et de Mme Nadia Rousseau, qui est professeure en pédagogie de l'Université du QTR. Alors, eux vont vraiment être là pour prendre soin des parents et de la famille. Alors, être indulgent en tant que parent, parce que souvent, on se sent coupable. Alors, eux vont venir apporter un bon, mais des trucs, je pense, qui pourraient être très bons pour les parents. Après ça, on va avoir des différentes conférences qui vont être offertes sur toutes les problématiques, que ce soit la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, dysphasie, le TDAH, l'anxiété.
Complet, là.
Oui, assez complet. Puis aussi tout le volet outils technologiques pendant une journée et le passage du milieu de l'école, milieu scolaire, au milieu de l'emploi. Ce qui est de plus en plus aussi un sujet qui préoccupe les parents lorsque l'enfant a fini ses études et là, il doit arriver dans le milieu du travail. Alors, il va y avoir aussi une journée attitrée à ce sujet-là.
Oui, parce que souvent, lorsque l'on pense à troubles d'apprentissage, on associe souvent ça aux enfants.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a un volet également pour les adultes dans
oui,
le colloque?
Tout oui, tout à fait. Alors, ça va être le volet là, intégration au milieu de l'emploi. Mm-hmm. Et parce que les enfants qui ont été diagnostiqués il y a plus de 15 ans, même 20 ans, ben ils arrivent là, dans le milieu du travail et on doit continuer à les soutenir. Puis, en tant que parents, comment on peut les épauler?
Oui. Maintenant, on le disait, ces parents-là se sentent souvent démunis, coupables également. Ils sont oui, confrontés à beaucoup de défis au quotidien. Annie Parenteau, vous qui êtes ordopédagogue également, vous êtes maman. Quels seraient vos conseils à ces gens-là qui nous écoutent?
Mais c'est sûr qu'il faut aller chercher de l'information le plus possible et se porter le défenseur de notre enfant.
Hmm.
Parce que je suis aussi maman de deux enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Et je crois qu'en tant que parents, nous sommes les personnes qui connaissent le mieux notre enfant. Et il faut travailler en collaboration avec tous les milieux, le milieu scolaire, mais aussi il faut vraiment leur transmettre les informations que nous, on vit au quotidien avec notre jeune. Il faut aller chercher les ressources, il faut aller chercher les informations et même s'associer à des groupes, des regroupements s'il le faut,
oui,
mais il faut être soutenu en tant que parent parce que souvent, on devient épuisé.
Oui. Est-ce que ça vous inquiète, les coupures qui se passent en ce moment dans le milieu scolaire?
C'est sûr que c'est pas des bonnes nouvelles.
Mm.
On espère fortement que ça soit que ça soit pas effectif là, mais dans le quotidien, c'est pas.
Vous l'observez, j'imagine, en tant qu'orthopédagogue.
Oui, je l'observe au
oui,
quotidien.
Et en même temps, le colloque pour parents, le grand défi de l'apprentissage, j'ai l'impression que c'est une façon peut-être à quelque part de pallier
oui,
ce manque-là que l'on peut observer en ce moment dans les milieux scolaires.
Oui.
C'est la troisième édition. J'imagine que ça s'est bonifié avec les années.
Oui, on raffine nos conférences. On s'assure d'aller chercher aussi différentes personnes, différents intervenants qui sont à la fine pointe là, des nouveautés, que ce soit au niveau des technologies, les logiciels. C'est vraiment toujours en lien avec ce que la recherche actuelle nous donne comme information. Alors, d'être le plus à jour possible.
Mm-hmm. Ça se passe samedi 7 novembre à l'Hôtel Westin Montréal, Saint-Antoine-Ouest, dans le Vieux-Montréal. On peut s'inscrire jusqu'au 5 novembre,
tout à fait.
Et puis, Vues et Voix sera là. On aura un kiosque,
oui,
nous. Donc, ce sera une façon de faire davantage connaissance. Vous serez là, vous, Annie Parenteau?
Oui, je vais donner une conférence.
Donc, ce sera un plaisir de vous y retrouver. Je le rappelle, vous êtes orthopédagogue, parent et personne une ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage, ITA. On peut aller également sur votre site pour en savoir davantage.
Tout à fait.
Merci, Annie.
Merci.
Bon colloque.
Merci.
Au revoir. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'est Christiane Campagnard à la recherche, Marianne Paquette au micro. Demain, on vous parle de pharmacie 3.0 avec le premier pharmacien 3.0 au Québec, Roger Simard. Tout ça au bénéfice de la santé des personnes âgées et également de la santé dans le monde. La revue de presse de Miguel Doucet. Tout ça demain, 14h en direct. Soyez-y. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.